Bon, et nous poursuivons notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. On est rendu au 23e sermon. Et on va regarder dans notre nouvelle petite série qu'on avait commencée, la souveraineté et la sagesse de Dieu déployée dans les afflictions des hommes. Donc, c'est comme la partie 5 de cette petite série-là. Et on se souvient que c'était l'étude du puritain Thomas Boston, qui avait écrit sur Ecclésiaste, chapitre 7, verset 13. Et il avait écrit une brochure d'à peu près 120 pages. Alors, on est encore là-dedans. On va terminer aujourd'hui la dernière leçon dans cette mini-série-là, mais qui se trouve être en même temps la continuation de notre série d'études sur le livre de l'Ecclésiaste comme tel. Alors, on finit cela cette semaine, l'Ecclésiaste chapitre 7, 13 et 14, et à partir de la semaine prochaine, on va recontinuer dans nos études qu'on faisait avant de commencer l'étude de Thomas Boston. Alors, on avait vu que dans cette section-là, Ecclésiaste chapitre 7, 13 et 14, on avait vu qu'il y avait comme trois idées. La première, c'était que les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. Et la deuxième, c'est que les afflictions ne peuvent pas être évitées ou éliminées par l'homme. Et la troisième, c'était que les afflictions, nous devions de voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre. Alors, on est dans la troisième proposition, celle de les afflictions, voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre. Alors, on avait terminé le point 1, qui était les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu. Et on avait aussi terminé le point 2, qui était les afflictions ne peuvent pas être évitées ou éliminées par l'homme. Aujourd'hui, on débute le troisième point, qui va être le dernier, de la troisième proposition qui était les afflictions, nous devons voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre. Un bon verset pour illustrer tout cela et pour nous servir de tremplin, qu'on pourrait dire, dans ce sujet-là, c'est le psaume 111, versets 2 et 3. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Alors, bien sûr, l'idée fondamentale à retenir de ça, quand on sait que les circonstances providentielles qui nous sont envoyées par le Seigneur dans nos vies de tous les jours, c'est sûr que ça fait partie des œuvres de l'Éternel. Et dans le verset, on nous dit que les œuvres de l'Éternel sont grandes, et que son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Alors, quand quelque chose n'est que splendeur et magnificence, ça veut dire que tout est, dans le fond, un reflet de l'ensemble des attributs de Dieu, donc parfait. Donc, les choses se reflètent dans ses perfections, et on voit que les circonstances providentielles que Dieu nous envoie sont aussi parfaites, malgré notre difficulté à bien le saisir. Alors, on va examiner aujourd'hui ce que signifie voir la main de Dieu dans les afflictions des hommes. Puis, nous regarderons quelles sont les conditions ou prérequis pour les vivre avec intelligence et profit. Et nous conclurons notre étude en méditant sur comment se comporter adéquatement dans les jours du bonheur comme dans les jours du malheur, et de voir comment Dieu utilise les deux dans nos vies sans que nous soyons capables de les prévoir. Alors, on relit un petit peu le passage de Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 et 14, avant de commencer. « Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Alors, on va regarder le premier point, ce que signifie voir la main de Dieu dans les afflictions des gens. Nous devons avoir un œil sur Dieu et sur sa main dans tout ce qui nous arrive. Alors on se doit de considérer attentivement et avec méditation et prière l'œuvre de Dieu dans nos vies personnelles. Pour faire taire nos plaintes, nos révoltes, nos gémissements concernant les afflictions que le Seigneur permet ou nous envoie, considérons la main de Dieu en eux et n'ouvrons pas la bouche contre ce qu'il fait. Au contraire, soyons remplis d'admiration et de délices, sachant que Dieu les décrète dans nos vies pour notre plus grand bien. Alors, un verset qu'on cite souvent, c'est Romains 8, 28, mais il y aurait beaucoup matière à réflexion là-dedans. C'est un verset d'une grande profondeur qui touche à peu près, qui touche tous les aspects de nos vies. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, regardons la disposition de notre condition et toutes les circonstances de celle-ci comme l'œuvre de Dieu et considérons-la comme le produit de son conseil éternel qui s'accomplit dans tout ce qui nous arrive. Considérez que toute œuvre de Dieu est sage, juste et bonne, et qu'il y a une beauté et une harmonie admirables dans ses œuvres, et tout semblera enfin avoir été pour le mieux. Rendons-lui donc la gloire de toutes ses œuvres qui nous concernent, et étudions-nous à y répondre avec sagesse, sérénité et soumission. Considérons l'œuvre de Dieu comme ce à quoi nous ne pouvons rien altérer. Qui peut redresser ce qu'il a courbé? S'il parle de troubles, qui peut faire la paix? Et s'il barre le chemin avec des épines, qui peut s'avancer? Puisque donc nous ne pouvons pas réparer l'œuvre de Dieu, nous devons au minimum en tirer le meilleur parti. Mais comment le faire? Alors on va regarder que 5 façons de le faire, c'est premièrement en considérant la source des afflictions, Dieu lui-même. Il nous est profitable de s'interroger sur la source des afflictions. Nous pouvons identifier notre propre péché, le péché des autres envers nous et les circonstances de la vie. Mais nous regardons rarement le rôle souverain de la main de Dieu dans l'envoi de nos afflictions. On va aller regarder un chapitre important du livre de Lamentations, les versets 32, 33 et les versets 37 à 40. À ce moment, on se souvient que c'était Jérémie qui se lamentait sur le sort de Jérusalem après que Dieu a permis que le peuple soit profondément affligé par toutes sortes de choses. Alors, on va lire les versets 32, 33 et ensuite 37 à 40. Versets 32 et 33. « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Et à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Alors, on regardait tantôt d'où peuvent nous venir les afflictions, d'abord des conséquences de nos propres péchés, aussi des conséquences du péché des autres, et aussi reconnaître la main de Dieu que lui-même permet en voie des circonstances pour des besoins que lui voit et qu'il veut nous corriger de ces choses-là. On va les regarder maintenant si on voit dans nos propres péchés les problèmes de la vie, des afflictions. On peut voir aussi dans le péché des autres. Alors, on va regarder comment le Seigneur dit de se comporter quand nos afflictions proviennent du péché des autres personnes dans nos vies. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 20 à 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, on voit ici l'attitude que le Seigneur nous dit d'avoir une attitude semblable à celle de Christ. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, il ne faut pas riposter, il faut se confier en Dieu, s'en remettre à lui qui juge justement, comme le verset le dit. On va regarder un autre passage également dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 15 à 19. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou maltraiteur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors ici, le Seigneur nous montre comment agir quand nos afflictions proviennent du péché des autres. Deuxième chose, on se doit comment le faire pour bien les vivre, les afflictions. La deuxième, c'est en considérant l'actualisation des afflictions. Alors, par les hommes ou ultimement de Dieu? Alors, bien souvent, nous, ce qui nous arrive des afflictions, on est porté à voir uniquement au niveau des hommes. C'est soit mon péché ou soit celui des autres. Mais on ne regarde pas souvent la possibilité ou la certitude même que c'est ultimement Dieu qui fait les choses. Alors, nous devons percevoir la main de Dieu dans nos afflictions. Peu importe le rôle de la main des créatures en elles, nous ne devons pas regarder uniquement la main des créatures et arrêter notre vision à ce niveau. Il nous faut regarder au-delà du rôle des créatures dans les afflictions temporelles, mais regarder vers l'agence du directeur suprême, soit Dieu lui-même. Sans cela, nous ferons un Dieu de la créature qui est l'instrument de l'affliction et la regardant comme si c'était la cause première. Et en faisant cela, nous exposer nous-mêmes au châtiment. On lit par exemple dans le psaume 28, le verset 5, « Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. » Alors, Dieu nous demande de toujours lever les yeux vers lui et de considérer les circonstances affligeantes de nos vies comme venant de sa propre main. Et troisième chose, comment faire pour bien les vivre, c'est en considérant la gestion théocentrique des afflictions. Alors, on explique un peu ce que ça veut dire. en nous représentant les afflictions comme une œuvre de Dieu qu'il a permise ou commandée, et que cette œuvre reflète les fins saintes et sages du Seigneur. Faire ainsi, c'est de prendre les afflictions sous le bon angle. Il ne peut jamais être prudent d'ignorer Dieu dans l'envoi et l'attribution des afflictions. Par exemple, de David, lorsque Shimei lui exprima des malédictions. On peut lire cela dans premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 5 à 11. David était arrivé jusqu'à Bakurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Alors on voit que David, dans l'événement, voit, attribue ce qui lui arrive, l'affliction qui lui arrive comme venant de la main de Dieu. Mais cependant, on peut voir aussi un peu plus loin dans 1 Roi, chapitre 2, versets 8 et 9, que le péché de Shimei ne resta pas impuni, parce que c'était, dans le passage, on peut voir que c'est le conseil que David donne à son fils Salomon lorsqu'il prend le pouvoir. Il lui dit, « Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas aller impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Alors ici, on peut revenir un peu avec un résumé dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, qui nous montre que dans le fond, Dieu est au contrôle de l'ensemble de tout ce qui arrive sur la terre. Ici, ça nous dit dans Éphésiens 1, 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, quatrième chose qu'on peut faire pour voir bien vivre les afflictions que Dieu nous envoie, c'est en considérant notre besoin de maintenir cette observation de façon permanente. Autrement dit, on a besoin de voir la main de Dieu de façon permanente dans ce qui nous arrive dans nos vies. C'est la sagesse que de maintenir nos yeux fixés sur la source des afflictions durant toute notre vie et non pas seulement un regard occasionnel et furtif. Et cinquième chose, pour bien les vivre, les afflictions, c'est en considérant l'objectif pratique voulu du Seigneur. Donc l'objectif, c'est de réglementer notre conduite. Les afflictions sous le contrôle souverain du Seigneur ont des buts pédagogiques, sages et sains. Deuxième point qu'on va regarder, c'est les conditions ou prérequis pour bien vivre les afflictions. Alors, pour vivre les afflictions de façon sage et profitable, nous devons les voir sous un éclairage biblique, comme par exemple les comprendre dans leur cadre sotériologique, dans le cadre du salut en Jésus-Christ. Les chrétiens doivent savoir interpréter le rôle des afflictions dans le cadre du salut en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 5, nous lisons « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le site web gotquestion.org. Et c'est dans l'article, la question qui est posée est la suivante. Pourquoi Dieu permet-il que nous passions par l'épreuve et la tribulation? Alors, on va regarder, je vais simplement citer ce qu'ils ont dit, parce que je trouve ça intéressant. Alors, voici ce qu'il dit. Un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne est que le fait de devenir un disciple de Christ ne nous immunise pas contre les épreuves et les tribulations de la vie. Pourquoi un Dieu d'amour et de bonté permet-il que nous soyons éprouvés par la mort d'un enfant, la maladie et la blessure chez nous-mêmes et chez ceux que nous aimons, les problèmes financiers, les craintes et les inquiétudes? S'il nous aimait réellement, il nous délivrerait de ces choses. Après tout, l'amour n'implique-t-il pas de vouloir pour nous une vie facile et confortable? Eh bien non. La Bible dit clairement que Dieu aime ses enfants et fait en sorte que tout contribue à notre plus grand bien. Romains 8, 28. Cela veut dire que les épreuves ou tribulations ou afflictions qu'il permet dans nos vies font partie de son plan pour que toutes choses concourent à notre bien. Elles doivent donc tous avoir un sens dans la vie du croyant. Donc, c'est une des premières choses, c'est de comprendre que c'est toujours pour notre bien. Deuxième chose, comme en toute chose, le dessein ultime de Dieu pour nous est de nous permettre de grandir de plus en plus à l'image de son Fils, comme on peut le lire dans Romains 8, 29. Tel est l'objectif du chrétien et tout dans sa vie, y compris les épreuves et les tribulations, a pour but de nous y faire parvenir. Cela fait partie du processus de sanctification, de mise à part pour Dieu, pour vivre pour sa gloire, comme l'exprime 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 et 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on peut, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, une troisième chose qu'on voit pour notre bien, pour faire ressembler à l'image de Christ, et aussi qu'ultimement, ça va résulter dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Les épreuves forgent un caractère conforme à celui de Dieu et nous permettent d'être fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus-Christ en est l'exemple parfait. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces versets révèlent des aspects de ses desseins divins pour les épreuves et de Jésus-Christ comme pour les nôtres. Notre persévérance prouve notre foi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous devons cependant prendre garde à ne jamais chercher d'excuses pour nos épreuves et tribulations si elles sont les conséquences de nos propres fautes. On lit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 15 que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Dieu pardonne nos péchés parce que Christ a déjà subi leur punition éternelle par son sacrifice sur la croix. Mais dans cette vie, nous subissons toujours les conséquences naturelles de nos fautes et de nos mauvais choix. Pourtant, Dieu se sert même de cette souffrance pour nous former et nous façonner pour ses desseins et pour notre bien. Les épreuves et tribulations que nous traversons ont un but et engendrent une récompense. Alors, dans Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4 et le verset 12, ça dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance s'accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez qualifié sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous avons la victoire à travers les épreuves et tribulations de la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, nous lisons « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais Satan n'a aucune autorité sur les croyants en Christ. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider, son Saint-Esprit pour nous rendre capables de le suivre, et le privilège de pouvoir venir à lui n'importe où et n'importe quand pour prier pour quoi que ce soit. Il nous promet aussi que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces, mais qu'il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Alors, j'ai jugé que c'était un article qui résumait un peu pourquoi les prérequis pour bien vivre les afflictions dans nos vies. Et le troisième point, c'est des conseils pour les jours du bonheur et des conseils pour les jours du malheur. Alors ça correspond au verset 14 du chapitre 7 d'Ecclésiaste. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. » afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, des conseils pour les jours du bonheur, le texte nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux ». Alors, quand on est, qu'on vit des événements que nous, on considère comme étant des événements qu'on aime, qui sont agréables à vivre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça nous dit « Sois heureux ». Donc, il y a l'idée à l'intérieur de tout ça d'apprécier et de jouir légitimement de ce que le Seigneur permet que nous vivions. Autre chose, c'est qu'on se devrait d'avoir en même temps de la gratitude envers Dieu, reconnaître que les choses bonnes, que nous reconnaissons comme étant bonnes, viennent de la main de Dieu. Et bien entendu, la joie. Parce que si on vit des choses comme ça, des jours de bonheur, Je pense que c'est un peu naturel. On n'a pas trop de misère avec ça. Quand tout va bien, puis que on perçoit les bénédictions dans nos vies, sur la terre, on est naturellement joyeux. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est d'avoir de la gratitude envers Dieu et d'apprécier ce que le Seigneur nous donne. Maintenant, les conseils pour les jours du malheur. Ça nous dit pour les jours « Et au jour du malheur, réfléchis ». Alors vraiment, les jours de malheur, les conseils que nous ont donnés, c'est la réflexion. Mais la réflexion dans un style méditatif, autrement dit, qu'on se doit de regarder, réfléchir à toutes ces choses-là et essayer de voir pourquoi le Seigneur envoie ces choses-là dans ta vie. Et on se doit, dans le jour du malheur, de considérer que ces choses-là nous viennent de la main souveraine de Dieu. Nous devons nous adapter aux diverses dispensations de la Providence qui nous concernent et adapter notre comportement conformément à la volonté du Seigneur et des Saintes Écritures. Alors, on peut observer comment ce qu'on peut appeler les rendez-vous et les événements de la Providence sont actualisés, autrement dit, comment ils arrivent dans nos vies. Dans ce monde, en même temps, certains sont dans la prospérité, d'autres sont dans l'adversité. Les mêmes personnes, à un moment, sont dans une grande prospérité et à un autre moment, dans une grande adversité. Mais bien plus que cela, un événement prospère et un autre pénible peuvent arriver à la même personne en même temps. Je vais simplement prendre un exemple qui m'est arrivé récemment. À 75 ans, j'ai été forcé de déménager. Je ne raconterai pas toutes les circonstances, mais à 75 ans, un déménagement, c'est lourd. Et je vois ça comme une épreuve. Mais en même temps, dans la même période de temps où je considérais que c'était une grande épreuve, Dieu a permis plusieurs, je ne les nommerai pas tous, là, plusieurs grandes bénédictions de l'aide, à la fois de l'aide pour déménager, l'aide pour préparer mon nouveau logement dans la peinture, et l'aide financière que j'ai reçue de plusieurs personnes. Alors on voit que des fois, dans la même période qu'on peut considérer comme une période de malheur, ou une période d'affliction, dans la même période, Dieu envoie à la fois quelque chose d'affligeant et envoie en même temps des bénédictions et de la miséricorde. C'est intéressant de noter ces choses-là. Alors, aussi, je pense que le verset 14 se termine d'une façon pour des conseils qu'on pourrait considérer tous les jours. Il y a des conseils pour les jours heureux, des conseils pour les jours de malheur. Mais aussi, je pense que la dernière partie du verset nous dit une chose, parce que ça dit « Dieu a fait l'un comme l'autre », donc il a fait le jour du bonheur, comme l'autre le jour du malheur, afin que, c'est dans le but que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Autrement dit, quand on vit, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui va arriver demain qui va m'affliger énormément? Impossible. Est-ce que je peux savoir qu'il va m'arriver quelque chose que moi je vais considérer comme très heureux? C'est impossible parce que Dieu dit qu'il a fait l'un et l'autre et qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qu'il va nous envoyer. Alors, des conseils pour la vie de tous les jours, on pourrait dire tout simplement l'humilité. Parce que si Dieu nous dit qu'on n'est pas capable de prévoir ce qui va arriver, que ce soit que des jours d'heureux ou des jours de malheur, ça veut dire qu'on se doit de considérer qu'à notre niveau, à nous, c'est impossible. Seul Dieu sait ces choses-là. Et pour tous les jours, il y a un autre conseil, ce serait celui du désir sincère de dépendre absolument du Seigneur. Ça, on a bien de la misère avec ça dans nos vies, de vouloir être sous la dépendance entière et absolue du Seigneur tous les jours de notre vie. On a tendance à vouloir prendre le volant plus souvent dans notre tour et on se devrait de lui laisser la conduite de nos vies de façon entière et absolue. Un autre conseil pour tous les jours, c'est celui d'être soumis de façon absolue à sa volonté souveraine, dans sa diversité. Parce que si on regarde l'ensemble de nos jours, on peut avoir vécu des jours qu'on considérait très intéressants, très heureux, très agréables. On peut en avoir vécu d'autres où on pourrait dire qu'on vivait dans la vallée de larmes. Mmh. Alors, c'est le mélange des deux. Et alors, on se doit de se soumettre à ça, sachant que ça a été conçu, que ça a été décrété par un Dieu sage et aimant et plein de miséricorde. En même temps, les conseils de tous les jours, soit que ce soit dans l'épreuve, ou que ce soit dans l'affliction, ou que ce soit dans les jours du bonheur, on se devrait toujours de faire une confiance absolue en Dieu. Une confiance à toute épreuve. Et, bien entendu, toutes les circonstances que Dieu envoie dans nos vies devraient nous amener à vouloir glorifier notre grand et glorieux Seigneur. Trois applications de l'étude de ce passage. Première implication, implorons le Seigneur de nous accorder la grâce de voir sa main dans toutes les circonstances de nos vies, qu'elles soient joyeuses ou affligeantes. Elles ont tous les deux des rôles sages et saints dans le déroulement de nos vies. Que cette noble tâche soit l'objet de nos pensées quotidiennement et constamment. Nous en serons grandement bénis et nous en tirerons profit pour sa gloire. Deuxième application, sachons reconnaître que le déroulement de la Providence dans nos vies illustre éloquemment la place de la glorieuse personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et troisième et dernière application, soyons reconnaissants pour toutes nos circonstances qui ont toutes un but pédagogique, soit nous enseigner que le Seigneur a un plan pour notre plus grand bien, soit que le but du Seigneur est de nous emmener graduellement à une plus grande ressemblance à Jésus, soit que nous subissons toujours les conséquences de nos péchés et de nos mauvais choix, soit que nous verrons un jour toute la perfection de nos circonstances providentielles, et soit que nos épreuves et tribulations nous vaudront une récompense et que nous aurons finalement la victoire, et que nous passerons l'éternité avec lui et pourrons le glorifier dans le bonheur le plus total. Que la gloire, que la glorieuse personne de Jésus-Christ soit bénie, louée et adorée à tout jamais. Gloire à Dieu. Amen.